Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 26 février 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, la question que je te pose à tous les semaines, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention dans la dernière semaine?
Bien, c'est une semaine un petit peu plus difficile, un peu plus volatile. On a eu à la fin de la semaine dernière là, des nouvelles concernant les consommateurs américains. Donc, les consommateurs américains qui semblent moins enclins à consommer, ça fait un peu peur à l'économie. Et les marchés ont corrigé sur les nouvelles. Il y a eu aussi des résultats financiers. Par exemple, Walmart, là, ça n'a pas été des très bons résultats financiers, donc ça a un impact sur les bourses. Ce qui fait que les marchés boursiers sont à la baisse depuis une semaine. Au Canada, 1,8%. Au S&P 500 du côté américain, 2,9% cette semaine. Le Nasdaq, 5,1%. Donc vraiment des baisses très prononcées. Plusieurs entreprises sont en forte baisse. On a vu aussi, on n'investit pas là-dedans vraiment, là, la crypto-monnaie, là, mais on a vu le Bitcoin aussi baisser beaucoup dans la dernière semaine. Puis il y a beaucoup de corrélations entre les crypto-monnaies puis le Nasdaq. Quand on voit le Nasdaq baisser beaucoup, généralement, on voit la crypto baisser aussi. Ou vice-versa, tu sais, je sais pas lequel attire l'autre, mais ils ont tendance à se suivre un petit peu. Donc le Nasdaq en baisse de 5,1% cette semaine. Tesla, depuis son sommet, là, on sait que Tesla avait connu une petite hausse là, suite à l'élection de Trump. Là, on dirait que les investisseurs commencent à la trouver moins drôle. Les acheteurs en Europe, donc les ventes de Tesla en Europe en baisse de 45% sur le mois comparable. Donc si on compare les ventes de janvier cette année à janvier l'année passée, une baisse de 45%. Le titre de Tesla est en baisse de 37% là, dans les derniers deux mois. Évidemment, c'est un des gros titres du Nasdaq, donc ça entraîne l'indice à la baisse. De l'autre côté, par contre, il y a certaines entreprises qui ont moins bien performé dans les dernières années, peut-être des secteurs un peu plus boudés. Ben, soudainement, année à jour, TELUS est en hausse de 15%, la banque TD qui avait eu toutes sortes de difficultés en fin d'année en hausse de 13%. On va parler un petit peu là, d'énergie renouvelable, là, mais même un titre comme Northland Power là, qui déçoit beaucoup d'investisseurs là, depuis quelques années, en hausse de 5% année à jour. On a la Banque de Montréal qui avait annoncé des résultats financiers un petit peu difficiles dans les trimestres précédents avec beaucoup de réserves pour pertes sur prêts. Ils ont augmenté les bénéfices de 50% année sur année. Donc le titre a monté beaucoup, a atteint un nouveau sommet. Power Corporation a atteint un nouveau sommet. Metro, un nouveau sommet historique. Donc il y a quand même, malgré des marchés boursiers un peu moribonds, si on va dans d'autres secteurs que la haute technologie, puis je pense que c'est sur ce clou-là que je veux cogner, c'est pas parce qu'un secteur performe bien pendant un an ou deux que tout le reste est désuet pour l'éternité. On voit encore la diversification fait son œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine du côté obligataire? Ben, l'indice des obligations fédérales à long terme, donc si on achète une obligation du Canada 20 ans, dans le dernier mois, ça l'a augmenté de 4,4% alors que les bourses sont en territoire négatif, comme quoi le bon vieux portefeuille 60-40, là, le portefeuille équilibré, la composante obligataire du portefeuille qui a souvent déçu, là, particulièrement en 2022, bien, elle fait son œuvre de réduire les baisses, d'augmenter pendant que les actions baissent, puis ça nous donne soit des munitions pour acheter des actions à rabais, ou ça vient au moins amenuiser, ça vient réduire la baisse totale du portefeuille.
Puis je peux dire que je me rappelle très bien, en 2022, il y a beaucoup d'analystes qui ont déclaré que le bon vieux portefeuille équilibré était mort.
C'était fini, ouais, c'est ça.
Finalement, elle est ravivée. Ouais. Merci beaucoup, Martin. Cette semaine, nous voulons plonger dans un sujet qui a fait des vagues, surtout récemment, l'investissement en environnement, social et gouvernance, qu'on appelle communément ESG.
Oui.
La question qu'on se pose et qu'on se fait poser, et je pense que les gens le disent pas ouvertement, mais pensent, est-il toujours viable à l'ère d'un changement politique avec des figures comme Donald Trump qui influencent les politiques mondiales? Donc, on se rappellera de son slogan « Drill, baby, drill ».
Ben ouais.
Et avec des défis aussi rencontrés par des industries comme l'éolienne, cette tendance est-elle révolue? Tout d'abord, Martin, puis on l'a déjà fait dans le passé, mais on va le refaire, décomposons ce qu'est l'investissement ESG.
Donc, ESG, E, environnement, S, social, G, gouvernance. Donc, on parle vraiment d'une façon d'investir, non pas avec un dogme, tu sais, d'absolument là, tout ce qui est vert, grano, environnemental, mais plutôt dans une vision de gestion des risques. Il faut voir l'environnement, le sociétaire et le gouvernance comme des risques. Et si une entreprise ne gère pas bien ces risques-là, peu importe c'est qui le président, peu importe le contexte, ça pourrait avoir une influence à long terme sur le prix de notre action. Il y a beaucoup de façons, donc on va regrouper tout ça là, sous le chapeau de l'investissement socialement responsable. Il y a beaucoup de façons d'investir de façon socialement responsable. Généralement, la façon la plus commune, c'est l'exclusion, de dire « je n'investis pas dans telle et telle industrie », l'énergie fossile étant une de ces industries, souvent la première qu'on mentionne. On peut aussi choisir de dire « moi, j'investis dans toutes les industries, mais je vais essayer de choisir ce qu'on appelle « best in class ». Donc, dans l'énergie fossile, laquelle qui a les meilleures pratiques environnementales? Bon, c'est une façon qui se vaut aussi. On peut avoir une façon aussi d'investir de façon à vouloir influencer les conseils d'administration. Donc, en tant qu'actionnaire, si je ne suis pas un actionnaire, je n'ai pas un mot à dire sur la gouvernance d'une entreprise. Mais dès que je détiens une seule action, ben, j'ai le droit de me présenter à l'Assemblée des actionnaires et questionner l'équipe de direction, puis essayer donc d'influencer la direction future de l'entreprise. Puis on va avoir, en terminant, l'investissement thématique, ou plutôt que de dire « j'exclus un paquet d'affaires », je vais dire « quels sont les défis mondiaux reliés à l'environnement ?» Ça pourrait être, par exemple, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, l'énergie, les soins de santé. Alors, je n'investis que dans ces thèmes-là. On va parler ici donc d'investissement thématique. Toutes les méthodes se valent. Et toutes les méthodes là, ont une certaine popularité qui peut varier là, d'un moment à l'autre.
Puis, il ne faut pas oublier, quand on parle de ESG, il ne faut pas oublier le S et le G. Puis nous, on en a beaucoup parlé avant le balado, je te disais, il ne faut pas oublier le S et le G. Et qu'est-ce qui est inclus dans le S? Bien, c'est tout ce qu'on appelle diversité et inclusion, d'avoir des femmes sur le conseil d'administration, etc. Donc, les bonnes pratiques des entreprises. Et ça a été moins à la mode, on le sait, surtout aux États-Unis. Mais c'est prouvé que, exemple, d'avoir plus de femmes sur un conseil d'administration amène plus à l'entreprise, l'entreprise performe mieux. Donc, même s'il y a des tendances, c'est inclus aussi dans le E et le S et le G. Le G étant la gouvernance aussi de l'entreprise, donc les bonnes pratiques de l'entreprise.
Ouais, donc d'avoir des résultats financiers qui sont bien divulgués, d'avoir d'éviter les entreprises qui ont un double niveau de vote, là, t'sais, que tous les actionnaires sont sur le même pied d'égalité, et ainsi de suite. Donc,
Parfait. Donc, maintenant, la grande question, Martin. Ouais. L'ESG est-il toujours pertinent ou est-ce une tendance qui a été passagère, surtout avec l'ascension des grands leaders comme Donald Trump qui n'a pas exactement défendu les causes environnementales, puis comme j'ai dit tout à l'heure, ni les causes sociales, donc comme la diversité et l'inclusion, dans son dernier mandat et surtout dans celui-ci?
Ouais. Ben, est-ce que les défis environnementaux sont passagers? Moi, je pense pas. Est-ce que la façon de les traiter peut varier d'une fois à l'autre? Donc, on voit un Donald Trump qui, bon, swing le pendule probablement à un autre extrême. Mais la réalité, c'est que les changements climatiques, à moins qu'on s'entende pas sur la science, là, mais les changements climatiques aux dernières nouvelles, c'est un fait qui est réel. Et puis on peut pas les ignorer là. À un moment donné, il va falloir s'y attaquer. L'opportunité, elle est là, elle est présente, elle est à long terme. Puis il faut savoir être patient. Donc c'est pas parce que moi je pense qu'il est passager, c'est cette mentalité temporaire là d'avoir un président là qui essaie de tirer le pendule de l'autre côté. Mais en même temps, c'est comme si l'énergie renouvelable ne peut pas exister en parallèle à l'énergie fossile. Puis tu sais, c'est pas ça la réalité, là. Toutes les sources d'énergie sont importantes. C'est pas demain matin, là, qu'on aura plus besoin d'énergie fossile. Mais une chose est certaine, on a besoin de plus en plus d'énergie. L'intelligence artificielle requiert de l'énergie supplémentaire. L'électrification des transports, bon, ça va aller à la vitesse X ou la vitesse X fois 2. On ne sait pas exactement à quelle vitesse ça va aller, mais certainement que les voitures particulières vont probablement s'électrifier. On a besoin de plus d'électricité. Je suis pas sûr que la solution, c'est dans le charbon, puis le pétrole, puis le gaz naturel. Probablement que l'éolienne, le solaire, fait partie de l'équation, puis ça peut très bien coexister. Et les États-Unis, c'est pas non plus le nombril de la planète. C'est la plus grosse économie au monde. Mais sur le reste de la planète, ben, il y a quand même à la fois d'autres pays qui se soucient puis qui investissent là-dedans. On peut penser juste au Québec où on a une filière quand même très importante dans l'énergie renouvelable. Puis en même temps, mais même les entreprises américaines, on a vu il y a quelques mois Microsoft faire des ententes avec Brookfield Renewable. Microsoft sait qu'ils bâtissent des énormes centres de données qui vont bouffer de l'électricité comme ça n'a pas de bon sens, l'équivalent d'une ville au complet. Bien, Microsoft est très conscient que s'ils s'installent dans une municipalité puis qu'ils font sauter la grille électrique de la municipalité au complet, ça se peut que les citoyens ne soient pas très, très heureux d'avoir Microsoft comme voisin. Bien, Microsoft s'est entendu pour acheter leur électricité d'un producteur renouvelable pour rendre leur production carboneutre. Donc, même si le président américain est ouvertement pas tellement en faveur de ces industries-là, ben, les corporations se comportent quand même de façon, en général, socialement responsable, avec les risques ESG qui sont pris en compte. Et c'est ça qui est important. Il faut comprendre, ce n'est pas juste de courir après des produits qui ont un marketing ESG. L'argument de dire que je sacrifie du rendement là, pourrait se valoir. Je ne suis pas sûr qu'il se vaut, pourrait se valoir. Mais c'est important de s'assurer qu'un gestionnaire tient en compte ces risques-là dans l'évaluation des entreprises pour peut-être moduler la taille de sa position en fonction du risque qui sera évalué par le gestionnaire.
Puis, moi, j'aime bien utiliser l'exemple de la Californie. Hein. Ouais. La Californie, il y a beaucoup de feux de forêt. Ils sont vraiment au précipice de la crise environnementale. Mais les compagnies d'assurance, peu importe qu'est-ce que qui dit quoi, ils se sont quand même beaucoup retirés de la Californie. C'est arrivé, les entreprises prennent des décisions en fonction de l'environnement. Et si une entreprise pollue, ou si une entreprise ne respecte pas ses employés, ces choses se savent et ça peut avoir un impact sur l'action de l'entreprise.
Ben, on a parlé un peu de Tesla au tout début. Là, on peut s'entendre probablement que je suis pas sûr que les gens qui ont acheté des Tesla dans les années passées trouvent ça aussi cool maintenant que Elon Musk soit vraiment à coquiner avec Trump. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes là-dedans qui peut-être ont des visions moins républicaines que plus. On voit le prix de l'action de Tesla là, qui se fait varloper en bourse. Ben, il y a un peu ça dans un des gouvernances, là, le G, là, la gouvernance. Donc, d'avoir un président mégalomane, c'est un risque. On a déjà eu un gestionnaire d'une compagnie de fonds là, qui nous avait montré sa grille d'évaluation ESG. Et CEO personality, là, la personnalité du président, est-ce qu'elle est mégalomane ou elle est humble, là, c'était un des critères. On pensait tout de suite, nous, à un Elon Musk, c'est ça, on parle il y a 4-5 ans là, qu'on avait vu ça. C'est un titre qui n'a jamais été dans le portefeuille de ce gestionnaire-là. Puis aujourd'hui, le titre a quand même bien fait là, dans les dernières années, mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est un bel exemple là, du risque du G de la gouvernance d'une entreprise quand un CEO peut-être arrête de gérer son entreprise puis s'occupe de d'autres projets.
Bien, puis on le voit avec les clients. On a plusieurs clients qui nous ont appelés depuis tout ça pour dire « Est-ce que je peux me désinvestir de les États-Unis?
Ouais. »
C'est sûr qu'on ne l'a recommande pas parce que c'est un excès de conviction, mais on voit que les gens prennent les choses à cœur et vont prendre des décisions comme investisseurs qui vont avoir des impacts sur l'action de l'entreprise.
Ouais.
Donc, pour toi, Martin, qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs en réalité si on dit « c'est encore viable, ça existe encore malgré tout ce qu'on entend? »
Ben, je vais vous donner un bon exemple. Hier, on a eu Innergex, l'entreprise Innergex, une entreprise basée à Longueuil que beaucoup de gens connaissent. Hydro-Québec était un actionnaire important d'Innergex. Le titre d'Innergex, là, depuis quelques années en bourse, a été quand même passablement moribond. Là, Hydro-Québec avait pris sa participation à autour de 20$ dans Innergex, puis depuis 3 ans, le titre avait baissé beaucoup, puis jusqu'à avant-hier, là, il y a quelques jours, le titre est transigé à 7$. La Caisse de dépôt et placement est arrivée pour privatiser la compagnie à 13,75 $. Donc, en quelque part, quand une entreprise devient à ce point sous-évaluée, à ce point boudée par le marché, un acheteur stratégique va être prêt à reconnaître la valeur et l'acheter au complet. Puis ça, Innergex, c'est un bon exemple. Tu sais, on aurait pu penser, bon, mais là, 7$, le titre est à son plus bas depuis longtemps, qu'est-ce qu'il y a à faire, s'il ne se passe rien, c'est mort, ça, Innergex. Pourtant, la Caisse de dépôt, ben qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Ben ils gèrent le fonds de pension des Québécois, ils gèrent la RRQ, entre autres. Ils ont un horizon de placement pour l'éternité. Hein? Ils ont pas de, ils ont pas, ils sont, ils voient pas 3-4 ans en avant, ils voient pour les 100 prochaines années. Et puis, eux jugent que d'acheter l'entreprise au complet, à ce prix-là, c'est une aubaine. Il y en a d'autres entreprises hein, dans ce secteur-là. On a vu sur cette nouvelle-là des titres comme Boralex, Northland Power, qui aussi, dans l'énergie renouvelable, ont été un peu moribonds là, dans les derniers mois. Bien, sur la nouvelle, si on applique les ratios d'évaluation de Innergex aux valeurs de Boralex et de Northland Power, on se rend compte que, bien, si, mettons, la Caisse de dépôt ou un autre acheteur stratégique est prêt à payer le même multiple, les entreprises valent beaucoup plus cher. À un moment donné, si on est un investisseur à long terme, on le répète tout le temps, c'est quoi être un investisseur à long terme? Bien, c'est être capable de tolérer l'inconfort de voir des titres baisser à l'occasion. Si on pense que l'entreprise se développe bien puis continue de faire les bonnes choses, éventuellement, sa valeur va être reconnue. De toutes sortes de façons, soit que la mode va passer, soit que le président va changer, ou un acheteur stratégique va se présenter pour acheter l'entreprise au complet puis la revaloriser à sa pleine valeur. Et on a vu ça dans le cas de Innergex hier. C'est un bon exemple.
Si vous voulez, il y a une couple d'articles dans la presse ce matin à ce sujet-là. Hydro-Québec recherche des producteurs d'énergie renouvelable. On a besoin d'énergie. C'est clairement écrit dans ces articles.
Exact. Fait que j'ai trouvé que c'était un bon exemple de mentionner ça. Puis, ironiquement, on avait choisi le sujet avant que la transaction d'énergie que ça arrive. Donc, ça venait juste un peu renforcer la thématique. Donc, nous, on pense que c'est encore pertinent. Ça fait encore la place dans le portefeuille. Puis, on dit souvent à moitié à la blague, ben s'il n'y a pas quelque chose dans votre portefeuille que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas bien diversifié. Je pense que depuis un an ou deux, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur type d'énergie renouvelable. C'est correct, c'est ça la diversification. Et alors qu'hier, le Nasdaq perdait 200 quelques points, ben Innergex a gagné 60 %. Et les Boralex ont gagné 7-8 %, Northland 5-6 % en une journée. Donc, c'est ça la diversification, c'est d'avoir des fois d'autres secteurs, d'autres titres qui sont peut-être moins en faveur, mais qui vont l'être. Évidemment, on ne met pas tout son compte là-dedans. On en met un certain pourcentage.
Oui, donc c'est pas une recommandation. L'idée, c'est la diversification.
Absolument.
Donc, pour en finir, on reste informé comme investisseur. Donc, on reste à l'affût des changements politiques.
Ouais.
On diversifie aussi notre portefeuille ESG. Donc, pensez aussi au social, aux gouvernances. Pensez pas juste à l'industrie éolienne. Pensez, comme tu as dit au début, soins de santé, gestion des déchets, etc. Ouais. Et on pense à long terme, donc pas juste pour les 4 prochaines années. Donc, merci beaucoup, Martin. Pour tous nos clients et partenaires, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.